Merci. Alors, je ne sais pas si tout le monde est revenu, presque tout le monde. On va commencer sans délai. Donc, pour cette table ronde, nous sommes dans le thème « Publier les résultats des projets de sciences et recherches participatives ». Dans les types de publications, on en a déjà vu présenté dans la première table ronde, hein, puisqu'il y a un lien entre toutes les tables rondes. En particulier, on peut avoir des publications autour d'informations sur le projet, un site web de promotion du projet. Également, comme on a pu voir dans le projet d'Émilie, un carnet hypothèse qui accompagne le projet et la partie réflexive en cours de réalisation du projet. Dans le cadre de cette table ronde, on va se centrer plutôt sur la publication des résultats avec des questions autour des lieux, des publications spécifiques à identifier et puis aussi sur les questions de la publication des données de la recherche. Les intervenants seront dans l'ordre présentés sur le programme.
Les deux premières intervenantes qui vont se présenter hein, chacune en début d'intervention, Charlotte et Aurélie donc, vont rapporter des retours d'expérience de publication, justement, alors que Thibault, lui, aura la lourde tâche de faire un effort pédagogique sur les questions de droit, de propriété intellectuelle, et notamment autour justement de la propriété des données de la recherche.
Alors pour rappeler les modalités des présentations, nos collègues vont se présenter en même temps que leur communication et nous prendrons les questions, toutes les questions à la fin pour gagner un petit peu de temps. Donc on va enchaîner les communications et nous prendrons les questions à la fin. Donc je laisse la parole à Charlotte qui va se présenter.
Donc, moi, c'est Charlotte Bocquier. Donc, je suis maîtresse de conférence en sciences de l'éducation. Et j'avais prévu une petite introduction à ma présentation pour justement essayer d'expliquer un petit peu d'où je viens et d'où je parle et par rapport à cette question de la publication et de la recherche en partenariat. Donc moi, en gros, je travaille dans une unité INSERM qui est pluridisciplinaire. Et au sein de cette unité, on a notamment donc, le POPS, qui est le pôle de psychologie sociale, où on travaille donc sur des thématiques en psychologie sociale de l'éducation, de la santé et du travail. Et une des thématiques qui nous intéresse particulièrement, donc c'est celle du partenariat patient-citoyen. Donc là, j'ai mis quelques exemples en fait, de projets de recherche qui rentrent dans cette thématique. Et donc ce partenariat, il nous intéresse aussi bien avec la participation donc, des patients dans les structures de soins, de leur participation aussi dans la formation, donc notamment par exemple auprès des étudiants, où on essaie aussi de les impliquer. Et ce dont je vais parler plus précisément aujourd'hui, c'est de leur implication donc, dans les projets de recherche et notamment ce qu'on appelle donc, la recherche communautaire. Donc la recherche communautaire, c'est de la recherche participative. Hein. On cherche à produire de la connaissance scientifique et à provoquer en fait, du changement social à plus ou moins court terme sur les terrains. Donc là, je vais m'appuyer sur plus spécifiquement ces trois projets de recherche dans des champs qui sont différents. Donc le premier, pôle, groupe, impact, personnage, en colis. Donc ce sont des recherches communautaires qui sont réalisées dans le champ de la cancérologie. Donc avec le groupe de recherche impact qui inclut donc des patientes chercheuses qui ont ou qui ont eu un cancer et qui sont mobilisées avec nous pour mettre en œuvre des projets de recherche. Pour Gundoso et Tagupich, donc là, c'est plutôt des recherches dans le champ du VIH-SIDA, donc plus habitués à ce type de modalité de recherche, avec donc, pour Gundoso, des femmes maliennes qui sont impliquées, et donc c'est surtout pour Tagupich, où il y a vraiment une implication en fait, des adolescents et des jeunes adultes qui sont formés là aussi pour être des co-chercheurs et pour évaluer en fait, les interventions qui sont mises en œuvre. Et pour ce qui est de étapes, donc là, c'est dans le champ du handicap et donc c'est à la fois des collaborations avec des professionnels du soin et une participation et une mobilisation de personnes aphasiques et leurs proches, donc là aussi dans la mise en œuvre des projets de recherche. Et donc, même si on a des champs qui sont assez différents et donc des modalités, on le verra, de mise en œuvre qui peuvent être particulières et adaptées à ces différents terrains, on a forcément des questions en fait, où on se rejoint entre nous quand on discute. Et notamment, là, je vais parler plus spécifiquement forcément des questions qui sont en lien avec la phase de publication et de valorisation en fait, des données de la recherche. Donc, c'est une volonté, en fait, d'associer les personnes qui sont mobilisées ou les consortiums, on verra, de ces recherches à nos publications, avec l'idée que ça nous permet aussi d'affirmer une méthodologie de recherche et de valoriser, en fait, de notre point de vue, leur participation à ces projets. Donc, je vais revenir, de toute façon j'avais mis des questions en vrac, mais qu'on va revenir un petit peu dessus au fur et à mesure. Donc la première question finalement, c'est quand on publie avec des personnes qui sont concernées par la problématique, est-ce qu'on va publier au nom d'un collectif, d'un consortium, ou est-ce qu'on va faire le choix de mettre le nom en fait, des personnes individuellement qui ont participé à ces recherches ? Donc, on fait les deux choix, puisque ça dépend de nos objectifs et du niveau, enfin, des enjeux, des niveaux de participation. Donc, par exemple, pour ce qui est le premier exemple que j'ai mis sur la première publication qu'on essaye là de faire passer, on est parti plutôt sur le consortium, parce que l'idée, c'est qu'on a essayé de faire une analyse de la formation patient-chercheur qu'on avait mis en place. Et donc là, elles sont plutôt... sujet en fait de cette évaluation. C'était le tout début, donc elles ont pas, il n'y a pas une grosse participation même après à l'écriture, même si on leur a fait relire et valider, mais on voulait déjà commencer à engager en fait de dire on est dans ce type de démarche où on veut valoriser et en tout cas rentrer dans plus de participation. Et ensuite, les personnes qu'on a mobilisées, elles ont été mises en œuvre pour le choix du sujet, pour la recherche de financement. Donc, elles ont participé à des auditions. Elles participent à plusieurs étapes de la recherche, donc construction de la grille, des fois passation d'entretien, etc. Et du coup, là, on s'est dit, est-ce que ce n'est pas un peu invisibilisant, entre guillemets, de nous mettre tous nos noms et elles, en gros, de les réunir derrière un consortium et finalement de... l'invisibilité, comme je le disais. Donc, on a proposé de pouvoir mettre leur nom, en se disant que c'est encore une étape peut-être supplémentaire vers ça. Maintenant, ça a posé des questions, donc, parce que du coup, mettre le nom, c'est ne plus être anonyme. Et donc, c'est montrer qu'on est là et qu'on participe parce qu'on a ou qu'on a eu un cancer, en fait, par exemple. Là, pour nous, notre objectif. Et donc, par exemple, nous, dans notre groupe de recherche, on a une personne qui est là donc en tant que patiente-chercheuse, mais qui est aussi enseignant-chercheur dans une autre discipline. Et donc, on s'est posé la question de est-ce qu'elle souhaitait ou pas, par exemple, qu'on affilie en fait son laboratoire, même si elle n'est pas là pour ça, est-ce qu'elle a envie de le montrer ? Et donc là, pareil, ça veut dire que potentiellement, on va ressortir dans son CV et donc peut être connu dans son milieu professionnel qu'elle a eu ou qu'elle est passée, mettons, par cette maladie. Et donc, elle y a réfléchi. Évidemment, c'est elle qui décide. Hein, elle a souhaité qu'on l'ajoute, mais il n'y avait pas cette obligation forcément. Et là aussi, du coup, ce que je voulais rajouter, c'est que quand on décide de mettre les noms de tous les participants, on rajoute 6 personnes, d'un coup, en gros, dans notre liste des auteurs. Et donc, ça aussi, pour les questions de publication, de pourquoi, comment est-ce qu'on justifie le nombre des auteurs, comment est-ce qu'en fonction des carrières, des disciplines auxquelles on appartient, ça va être plus ou moins valorisé en fait, de faire des papiers à 1, 2, 3 auteurs ou 18 auteurs. Ça veut dire qu'il faut aussi que peut-être on réfléchit entre nous à comment on fait ces choix-là, pourquoi, quand, est-ce qu'ils sont systématiques ou pas, par exemple. Pour Gundoso, ce qui a été décidé en fait, dans le programme, pareil, c'était de mettre le groupe, en gros, le nom du consortium, sauf quand les résultats de la thèse, en fait, c'était les résultats de la thèse, où là, en gros, il était décidé au sein du groupe que même si c'était un projet de recherche communautaire, en fait, elle publiait à son nom, à celle de sa directrice pour certaines thématiques. Et pour Tagupic, le choix qu'ils ont fait, c'est de mettre les noms des jeunes, mais de sélectionner. Du coup, de ne pas mettre tous les noms comme nous, on fait par exemple, où on rajoute d'un coup 6 noms, mais d'alterner en fait d'une publication à une autre, d'une communication à une autre, et en fait de faire tourner entre eux pour mettre 2 ou 3 noms en plus sur les publications. C'est leur choix. Et là aussi, bien sûr, il y avait aussi la forte question de ne plus être anonyme sur une maladie encore plus potentiellement stigmatisante qu'est le VIH que nous, on l'avait avec la question du cancer. Le dernier exemple que je voulais prendre sur le dernier projet, donc étape. Donc là, il y a eu une publication pareille qui a été faite. En fait, c'est des observations de terrain. Donc en gros, Camille Carpentier, elle est allée dans des structures de soins et elle a travaillé avec les professionnels de cette structure-là Donc, elle a fait des observations, elle les a fait participer à l'analyse, et ensuite, il a été question, en gros, d'écrire un papier sur les résultats de cette analyse. Et donc là, c'est pareil, c'est aussi la question de l'anonymat, mais pour des raisons qui sont différentes, c'est-à-dire que de toute façon, même si elles publient pas en leur propre nom, qu'elles mettent, elles sont que deux, mais que c'était sous le nom d'un groupe, c'est un terrain très facilement identifiable et les collègues savent très bien qui a participé, mettons, au projet de recherche. Et donc, dans le contenu, bah, s'il y a un peu des critiques, en gros, de l'organisation ou de la manière dont se fait le travail, bon, qu'elles mettent leur nom ou pas, de toute façon, elles seront reconnaissables. Donc, c'est est-ce qu'elles veulent être associées ou pas, en fait, à ce papier et du coup, au contenu qu'il va y avoir à l'intérieur. Donc là aussi, elles font ce choix de le faire parce que bah, pour elles, elles y trouvent aussi, enfin, elles y ont trouvé en tout cas une valorisation en tout cas de leur participation et de leur travail au sein de ce projet-là. C'est comme ça qu'elles ont justifié aussi leur choix d'y apparaître et donc bah, d'assumer le contenu critique dans le bon sens du terme, mais voilà, qui pouvait être associé à cette publication. Du coup, pour résumer, en gros, l'idée, c'était de dire qu'on n'a pas vraiment, même si on multiplie, entre guillemets, et que de plus en plus, on se pose ces questions-là dans le cadre de nos recherches qui sont donc participatives, communautaires, on n'a pas vraiment trouvé de structure ou de règles à mettre en place qui seraient systématiques, de dire ben, quand on est un membre associé à cette unité de recherche et qu'on fait des recherches participatives, ben, voilà ce que nous, on a décidé de mettre en place en termes de réglementation et de la manière dont on coécrit et copublie avec c'est des non-chercheurs, entre guillemets. Bah pourquoi ? Parce qu'il y a mille façons de faire de la recherche participative et communautaire, et aussi pour toutes les raisons que j'ai essayé d'indiquer et d'expliquer un petit peu avant, sur la diversité et la sensibilité des sujets. Donc là, nous, on a des personnes qui ont accepté en fait, de mettre leur nom et d'assumer pourquoi elles participaient à ce projet-là. Ça n'a pas à être quelque chose de forcément systématique ou obligatoire. Il ne faut pas que ça devienne un frein, par exemple, à la participation à ce type de projet. Les attentes évidemment des participants, donc est-ce qu'ils ont des attentes qui vont être aussi plus ou moins professionnelles, quelle valorisation en fait ils y trouvent, et c'est là où je viendrai chercher après, à avoir leur nom dans des publications scientifiques, ce qui ne leur parle pas forcément en soi, et bien sûr les contextes de mise en œuvre, donc comme je disais le travail ou des contextes qui peuvent être plus ou moins stigmatisants. Du coup la limite, comme je le disais, du nombre d'auteurs sur laquelle je vais revenir tout à l'heure, qui peut faire que nous aussi, on ait envie de négocier. Est-ce qu'on met tout le temps les noms ? Enfin, voilà. Comment est-ce qu'on va faire ? Et la question donc, des affiliations, où, bah, par exemple, moi, ça m'est déjà arrivé, à Mathilde aussi, sur Gundoso, il y a des standards en fait en ligne quand on commence à rentrer, à vouloir soumettre un papier qui ne correspondent pas toujours à l'ajout du consortium. Et comme des fois, bah, ça prend déjà énormément de temps de soumettre ces papiers. Des fois, moi, je triche un petit peu, par exemple, sur l'individuel en me disant, bon, je verrai après avec l'éditeur, nom, prénom, donc je mets groupe de recherche et en nom de famille, impact, par exemple. Enfin, je fais comme si c'était une personne, alors que ça ne l'est pas du tout. Mais bon, je me dis, après, ils liront et on le verra après. Mais du coup, ce n'est pas formalisé, ça veut dire que ce n'est pas pensé, en fait, dans la mise en œuvre pour pouvoir toujours facilement intégrer ces personnes et notamment aussi sur les affiliations obligatoires. En gros, moi, je mets les associations, mais qui ne sont pas rentrées, que je rajoute et qui ne sont pas non plus... Enfin, c'est des affiliations qui ne sont pas automatisées et déjà préinscrites. Il me reste très, très peu de temps, bien sûr, puisque j'ai pris beaucoup trop de temps. Mais donc, sur la question des auteurs d'un article et d'un chapitre scientifique, donc là, je voulais souligner le fait, en gros, qu'on peut intégrer des auteurs et parce qu'ils sont acteurs d'une recherche. Et là, c'est aussi systématique en général. Hein, moi, je le rencontre beaucoup dans le processus de soumission où, en gros, on doit justifier quand même pourquoi est-ce qu'on met X ou tel auteur dans une publication. Qu'est-ce qu'il a fait, en fait, pour pouvoir se retrouver et dans cette partie-là. Ce qui, si on fait participer à la marge, peut être plus ou moins compliqué aussi, par exemple, à justifier. Bon, là, nous, on ne le rencontre pas trop parce qu'on les implique énormément dans différentes mises en œuvre de la recherche. Et du coup, c'est surtout cette partie-là qui m'intéressait, c'est le fait d'être auteur de la recherche. Donc, je ne vais pas rentrer dans la partie écriture, est-ce qu'on y a plus ou moins participé ? Même si là aussi, donc, ce que je voulais souligner, c'est les temps en fait, d'écriture qui, tant qu'on n'a pas soumis le papier, bon, on a le temps potentiellement de prendre le temps d'accompagner à l'écriture, etc. quand on a des révisions à faire, on a des temps qui sont hyper restreints, où nous, on a beaucoup de choses à faire aussi en particulier, et où, enfin, à côté, elle aussi. Et c'est plus difficile de caler des temps où on va réussir à co-écrire, à se mettre d'accord sur les modifications, enfin, etc. Et parce que ça va vite. Et moi, ça m'est arrivé d'écrire à des revues en leur disant, si on veut vraiment essayer de prendre le temps de le faire collectivement, enfin, avec les non-chercheurs, donc des personnes qui n'ont pas forcément ces habitudes-là, etc., j'aimerais bien un petit délai. Donc, que j'avais obtenu là, mais bon, c'est aléatoire, quoi, en fonction des revues. Et il y a l'idée aussi qui nous intéresserait, nous, d'aller fouiller, qui est, en gros, c'est quoi pour elles, puisqu'on a majoritairement des femmes, être auteur d'un papier, qu'est-ce qu'elles comprennent, en fait, de ça, pourquoi elles veulent ou pas, et quelle légitimité elles ont l'impression, en fait, d'avoir, est-ce qu'elles se sentent vraiment autrices, en fait, de ces papiers-là. Je pourrais revenir dessus après. Et du coup, j'ai trois derniers points à aborder, donc très rapidement, qui repartiront après pour peut-être les questions-réponses. C'est le fait que nous, dans nos projets, on a essayé d'aborder la question donc, le plus tôt possible en intégrant en fait, la question de la publication, de qui, etc., donc de l'authorship dans des chartes de recherche communautaire, même s'il est difficile de tout anticiper. Ce qu'on a aussi essayé de mettre en place au fur et à mesure des projets qui nous semblait important, c'est qu'au-delà de l'écriture, et je viens un tout petit peu dépasser de 30 secondes, du coup, il y a comprendre la logique en fait, qu'on a voulu vraiment leur expliquer du système de publication en fait, scientifique, donc c'est-à-dire beaucoup plus large que là ce que j'ai mis, qui est juste première auteur, quel ordre, pourquoi, etc., mais aussi en fait, comment fonctionne vraiment ce système, pourquoi est-ce qu'on veut à tout prix publier en fait des papiers scientifiques, comment est-ce qu'on choisit nos revues, comment sont évaluées en fait les revues, c'est-à-dire en termes de qualification, de pourquoi est-ce qu'on va là et pas dans une autre, pourquoi est-ce que nous, par exemple, dans notre discipline, on veut vraiment essayer de publier en anglais par rapport à d'autres qui vont faire en français, enfin, l'open access, etc., qu'elles comprennent en fait vraiment quand on les fait participer, à quoi en fait on les fait, pourquoi est-ce que c'est important pour nous quand même d'y aller. Et après, j'avais dit, il y a aussi la littérature grise. Et voilà, on peut publier dans d'autres formats, bien sûr, que celui sur lequel je me suis concentrée aujourd'hui, qui est celui de la publication académique. Mais je vais m'arrêter là. Merci.
Et nous allons écouter maintenant Aurélie, la Borde.
Bien, bonjour, Aurélie Laborde. Donc, je suis maître de conférence en sciences de l'information et de la communication au MICA. Je travaille, alors peut-être pour donner quelques éléments, mes objets de recherche relèvent de ce que les anglo-saxons appellent les dark side studies. Je m'intéresse aux pratiques de communication cachées, obscures, invisibles dans les organisations, et peut-être ça peut expliquer cet intérêt pour travailler au plus proche des praticiens dans les organisations et donc à utiliser les recherches participatives. Et un peu de promo, je publie prochainement un ouvrage donc, qui s'appelle « Violence numérique et résistance au travail » avec toute la dernière partie qui est dédiée à une réflexion épistémologique justement sur qu'est-ce que ça veut dire de faire des recherches participatives dans les organisations et avec les praticiens. Alors, je vous propose là de revenir sur deux expériences de recherche. Alors, moi, je les appelle recherches collaboratives, on reviendra dessus, mais qui sont évidemment des recherches participatives que j'ai menées. Et puis ensuite, quelques questionnements issus de ces expériences, notamment sur la question de la publication, puisqu'on est dans une table ronde sur la publication. Et alors, c'est assez étonnant, parce que finalement, c'est probablement la chose sur laquelle je me suis le moins posé la question de la publication. Alors, du coup, ça m'a obligée à réfléchir à ces questions. Alors, des expériences de recherche collaboratives, je reviens rapidement sur la définition des recherches partenariales ou collaboratives qui est proposée. Du coup, j'ai remis les définitions pour Raphaël, on en a parlé il n'y a pas longtemps. Donc, ce type de recherche se fonde sur des coopérations entre acteurs hétérogènes qui sont source de co-construction de recherche et de coproduction de connaissances. Donc, c'est très proche des sciences participative avec cette dimension de collaboration. Alors, ce que disent les auteurs, c'est que les deux termes peuvent être utilisés indifféremment. L'un, le premier plutôt au Québec, le second plutôt en France. Moi, je parle plutôt de collaboratif. Et pour l'essentiel, il s'agit de recherches qui associent des chercheurs, des acteurs d'autres milieux, professionnels. Donc moi, vous l'aurez compris, je travaille avec des professionnels et essentiellement des cadres. Ces recherches ne visent pas forcément une transformation, donc ça c'est assez intéressant, même si dans mon cas je suis plutôt dans une recherche de transformation, mais là pour les recherches collaboratives, à la différence de recherche action, recherche intervention, c'est pas forcément le cas. Alors, dans les deux exemples que je vais vous reprendre, je vais montrer les différences, mais ces deux exemples ont en commun donc des choses très classiques, hein, on est tous un peu spécialistes de sciences participatives, donc de produire des connaissances avec et pour les acteurs, je vais vite, de répondre aux besoins et intérêts mutuels des partenaires et les chercheurs et les non-chercheurs autour d'une problématique commune, de refuser une posture scientifique en surplomb, de reconnaître l'expertise, la réflexibilité des praticiens, de lier étroitement production de connaissances, apprentissage et action. Donc ça, c'est très classique. Alors, je reviens sur ces deux expériences. La première, c'est un programme de recherche qui est assez ancien, puisqu'on avait commencé en 2009, qui s'appelait Rodin, qui était un programme FEDER européen. Et donc, moi, je dirigeais un axe sur la question des mutations des organisations agricoles et de l'appropriation des dispositifs numériques. Donc, en fait, il s'agissait d'analyser la diffusion, l'appropriation et l'effet sur la transformation des métiers et les pratiques d'agriculture. Donc, au regard de cette thématique, on a d'emblée, dès le début de la recherche, mis en place ce qu'on a appelé un forum des experts aquitains pour faire ce travail en concertation avec les acteurs, donc à la fois pour saisir les enjeux et puis surtout pour irriguer les réflexions et les actions de la filière. Alors, sur le dispositif, ce forum des experts, c'était une vingtaine de personnes qui se réunissaient à peu près 3 fois par an pendant tout le temps de la recherche. Et puis, puisqu'on parle de publication, hein, l'autre élément du dispositif, c'est ce qu'on avait appelé l'Observatoire Agriculture Éthique, qui était un site internet doublé d'une newsletter hebdomadaire qui rendait compte, alors à la fois de publis de la part des experts, hein, du groupe de forum, à la fois sur les recherches, l'actualité, enfin tout ce qu'on peut trouver dans ce genre de site. Alors, en ce qui concerne l'activité de publication, au-delà de la production des articles scientifiques classiques, donc on a publié énormément de choses sur ce site de l'OAT, bien sûr. On a publié un livre blanc en 2012 à partir de focus groupes thématiques qui réunissaient à la fois des chercheurs et des professionnels. Et ce livre blanc, il a été signé, parce que la question de la signature, il a été signé par les chercheurs et les IGE, IGR qui travaillaient sur ce programme, ce qui n'est pas le cas pour le projet suivant, c'est pour ça que je le dis. Et enfin, un ouvrage scientifique. Alors là, par rapport aux réflexions d'Émilie ce matin, nous, ce qu'on avait fait, donc l'Armatan, classique, article de recherche, et à la fin de chaque article, on a demandé à un membre du comité des experts de commenter cet article et de donner son point de vue. Mais du coup, le statut était un peu différent dans la posture. Alors là, on est plutôt dans ce que Bonnie appelle de la recherche collaborative et pas de la recherche action collaborative. Ce type de recherche s'inscrit de façon centrale sous l'égide du référentiel scientifique. Là, ce qui est mis au premier plan de la dynamique collective, c'est la production de connaissances scientifiques, ce qui n'est pas le cas pour le suivant, on le verra. Donc, je crois que je vous ai mis une petite citation. Voilà, le cœur de ce que chercher veut dire dans ce type de démarche consiste à faire de la recherche académique et relève de l'expertise professionnelle des chercheurs. Les contenus et publications dans ce cadre-là, eh bien, ils sont signés par les uns ou par les autres. On a vraiment des professionnels qui proposent ou des interviews, des vidéos, des articles, mais qui sont vraiment spécifiques, et puis des chercheurs qui proposent des produits de la recherche. Même le livre blanc, qui est destiné plutôt au public professionnel et à la filière, est signé par les chercheurs et les ingénieurs de recherche. Autre démarche plus récente, le programme Civilinum sur les questions de civilité et d'incivilité numérique au travail, qui était un programme région, celui-ci. Donc la démarche initiale, elle s'est développée, elle a été directement inspirée de la précédente, mais elle va un peu plus loin. Donc on a aussi proposé un groupe de discussion hein, donc que j'ai construit à partir de 2016, à partir de... ça, c'est quelque chose dont on n'a pas forcément parlé, mais c'est vrai que ça demande beaucoup d'activité de la part des chercheurs. Donc, je l'ai construit en allant faire des conférences en entreprise et en disant, regardez, ça existe. Est-ce que ça vous intéresse? Et puis, du coup, on a construit ce groupe de discussion. Dans le dispositif... Donc, le groupe de discussion de 2016 à 2019, il s'est réuni à peu près tous les deux mois. Et on a produit, bon, ce n'est pas très lisible là, mais la première production, ça a été une sorte de définition du sujet, un premier document, parce que là, on parle sur ces questions de civilité et d'incivilité numérique, c'est quelque chose qui était pratiquement pas traité, ni dans la littérature managériale, ni scientifique. Donc, en fait, l'objet, c'était de co-construire entre chercheurs et professionnels cet objet, le donner à voir, le documenter, savoir de quoi on parlait. Donc, c'est la première publiée qui a été co-signée par l'ensemble du groupe, c'était voilà, un cadrage du sujet. La seconde, ça a été un livre blanc, qui a été co-signé. Alors, je crois que non, il n'y a même pas mon nom pour coordonner. On est vraiment dans une logique de co-signature. Et ce livre blanc, il a vraiment été entièrement co-construit entre les chercheurs et les professionnels, puisqu'on a mis en place deux jours de table ronde, on a fait venir des gens, et les professionnels comme les chercheurs pouvaient animer les tables rondes et ont signé des chapitres. Donc là, on est vraiment sur de la co-publication. Ensuite, en ce qui concerne la publication plus scientifique, elle était vraiment à part, c'est-à-dire qu'on a fait un ouvrage de fin de programme et puis aussi un livre blanc, mais qui a été complètement signé par des chercheurs. Donc là, on est plutôt dans une logique... la collaboration va plus loin que dans l'expérience précédente. Finalement, l'espace de recherche collaboratif, et moi, c'est quelque chose qui m'importe, finalement, il a été construit comme un terrain pour observer cet objet. Ici, les praticiens sont directement impliqués, ils participent à la recherche, ils ont fait des entretiens, ils ont conduit des tables rondes, ils ont rédigé. Et voilà, donc là, on est toujours, hein, le référentiel scientifique reste important, mais il ne positionne pas pour autant le chercheur dans un rôle de pilotage et de maîtrise du projet. Le chercheur a ses propres objectifs professionnels, et puis ensuite, il y a d'autres postures. Alors, ce que je voulais dire sur ce point-là, parce que ça revient un peu au débat qu'on a eu ce matin... Là, il y a vraiment co-construction de connaissances, il peut y avoir co-signature. Pour autant, on fait bien la distinction entre les publics qui sont destinés au grand public et puis les publics scientifiques. Et, alors, le débat est ouvert, mais moi, ça me semble important. Et la première raison pour laquelle ça me semble important, c'est que je pense que dans ces espaces de recherche collaborative, on produit une forme de connaissance qui n'est pas forcément la même. Donc, moi, j'appelle ça, à la suite du HAL, de l'objectivation enracinée, c'est-à-dire quand on s'inscrit dans le temps long, on arrive à passer des savoirs d'expérience, des savoirs investis, vers une première montée en généralité qui est partagée, pour plein de méthodes, hein, on peut en reparler, mais qui n'est pas non plus une deuxième forme de connaissance, qui est la capacité de retravailler l'ensemble de ces résultats à la lumière de nouvelles théories et de nouvelles approches qui vont permettre de donner une relecture. Ça ne veut pas dire que dès qu'on a intégré ça, on ne va pas le redonner dans l'espace de recherche et que donc ça va reprendre le cycle. C'est pour ça que des fois, on fait peu la distinction. Mais autrement, pour moi, il y a vraiment deux types de connaissances avec des niveaux de montée en généralité. Après, c'est une discussion épistémologique qui est très ouverte. Hein. On peut... voilà. J'avance parce que j'exagère, je prends du temps. Alors, sur les enseignements autour de l'écriture et de la publication, en premier lieu, je dirais que... merci Raphaël, ça m'a été très utile de réfléchir à ces questions parce que force est de constater que je ne me les étais jamais posées, en tout cas sur la question de la publication. Peut-être comme beaucoup d'entre vous, moi j'ai consacré vraiment du temps à la question de la méthodologie, de l'épistémologie, de l'éthique pour encadrer ce type de recherche. Et alors la question des publis, je crois que ça s'est fait au fil de l'eau. On s'est dit bon, on fait pas, tu veux pas, bon. Mais voilà, c'est très intéressant, puis surtout de vous écouter et de voir quelles ont pu être vos problématiques. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, je reviens sur cette idée de cloisonner ou pas les livrables, qui fait suite à la question que vous aviez eue et puis à ton intervention. Donc, je l'ai un peu dit, hein, moi, je, a posteriori, parce qu'en fait, je ne m'étais jamais posé la question, a posteriori, je dirais que je cloisonne les livrables, d'abord parce qu'il y a cette question de... construction des connaissances qui fait qu'on n'est pas forcément sur le même type de contenu. Et alors la deuxième, et je m'arrêterai là, mais ça me semble intéressant, la deuxième raison, c'est un principe d'efficacité. Si je reprends les raisons pour lesquelles je fais de la recherche participative, alors au-delà de mes objets, de mon approche disciplinaire qui fait que j'ai besoin de travailler avec les praticiens, et si je reprends la terminologie justement de Raphaël sur les raisons pour faire de la recherche participative, moi, ma raison, elle est avant tout politique, c'est-à-dire que je veux aller vers la transformation, vers la prise de conscience, l'apprentissage, la transformation. Et là-dessus, c'est très compliqué de conjuguer les deux. C'est-à-dire que, comment dire ça, finalement, mes livres blancs sont très efficaces en étant coécrits et co-signés par des professionnels, beaucoup plus que uniquement écrits par des chercheurs. Il y a un principe d'efficacité sur leur diffusion à l'intérieur des entreprises. De la même manière, si on part du principe, alors pour reprendre une terminologie de la sociologie de l'innovation, l'idée c'est de construire ensemble un objet qui va apparaître comme problématique et de le soutenir collectivement. Et finalement, les publis, elles apparaissent, c'est ce que Calon et Latour appellent les acteurs non humains, hein, qui vont participer au réseau et venir le soutenir. Et les publis, elles viennent soutenir cet objet scientifique. Et je crois qu'elles le soutiennent d'autant mieux qu'il n'y a pas confusion entre les genres. Mais la discussion est ouverte, c'est-à-dire que le chercheur a plus de force en allant échanger sur cet objet scientifique dans des arènes scientifiques avec un texte qui répond aux normes dont on parlait ce matin, et le professionnel ne peut pas partir avec un article scientifique, avec le genre qu'on connaît à la littérature scientifique, pour convaincre et parler dans son entreprise. Voilà, j'aurais tellement d'autres choses à vous dire, mais Je m'arrête là, j'ai mis quelques sources que je donnerai par ailleurs.
Merci. Nous laissons la parole maintenant à Thibaut Guillebon.
Bonjour à tous, donc je m'appelle Thibaut Guillebon, je suis enseignant-chercheur contractuel à l'Université de La Rochelle en droit privé. Alors j'ai fait un petit passage éclair à l'URFIST où j'ai beaucoup appris au demeurant. Donc c'est cette année, hein, c'était à partir de janvier. Et donc j'ai été amené à m'intéresser, du moins à orienter mes travaux de recherche sur les questions de droit de la propriété intellectuelle et du numérique, notamment dans le contexte de l'ouverture de l'open science, de l'open data, et également donc de cet aspect, de cette dimension que sont les sciences participatives. Et donc, comme l'a annoncé Anaïk, je vais avoir la lourde tâche donc, de vous faire un petit état des lieux des questionnements juridiques nombreux qui se posent dans la mise en œuvre, dans la réalisation de ces projets, de ces dispositifs de sciences participatives. Alors, je rappellerai simplement hein, je reprendrai une définition générale qui est que selon laquelle donc les sciences participatives elles sont souvent définies comme une nouvelle forme de production de connaissances dans laquelle on associe des acteurs, des scientifiques non professionnels qu'on appelle des fois amateurs, citoyens, participants. Alors effectivement, dans la mesure où il y a dans la mesure où ces dispositifs mettent en œuvre des objets de connaissances scientifiques, se pose naturellement la question de la protection de ces objets de connaissance par les droits de propriété intellectuelle. Les droits de propriété intellectuelle, je le rappelle, hein, sont des régimes de propriété qui visent à réserver à titre exclusif à une ou plusieurs personnes les droits d'exploitation sur une création intellectuelle. Et en général, on divise, hein, on divise la partie droit d'auteur et la partie propriété industrielle. La partie droit d'auteur, on protège les créations, ce qu'on appelle les œuvres de l'esprit, qui sont des créations destinées à être communiquées à un public. Et ce qu'on va protéger, c'est justement l'exploitation de la communication. Et tandis que la propriété industrielle, qui prend pour modèle notamment le brevet d'invention, vise ici à donner un titre de propriété sur une invention, un produit, une application industrielle, ou pourquoi pas même des certificats d'obtention végétale, et qui seront, elles, plutôt des formes fonctionnelles. Le but, ce n'est pas de communiquer au public, c'est vraiment de permettre à un consommateur d'utiliser le produit, l'application. Effectivement, quand on regarde les dispositifs de sciences participatives, parmi les objets scientifiques qui sont produits, on a à la fois des créations de formes traditionnelles, écrits, films, à la rigueur animation, vidéo, interview, qui peuvent être protégées par le droit d'auteur, et on a également donc des créations qui se rapprocheraient davantage d'une invention pouvant susceptible d'être l'objet de droits de propriété industrielle. Je laisse néanmoins de côté la partie propriété industrielle, bon, déjà par manque de temps aussi, hein, parce qu'il faut aussi quand même respecter le temps imparti, et aussi parce que le thème, c'est quand même communication scientifique à travers notamment les deux manifestations que sont écrire et publier, qui, moi, me semblent relever davantage de la thématique du droit d'auteur. Voilà. Donc je ferai cette première restriction quant au sujet d'études. Alors après, la question de la protection en droit d'auteur, elle se pose parce que ces dispositifs de sciences participatives mettent en œuvre en fait une diversité d'acteurs. Il y a un effet de dilution dans l'acte de création, dans l'acte de constitution des données et à la rigueur, parfois dans l'écriture scientifique, comme on l'a vu. Donc cet effet de dilution, il peut poser des difficultés, ne serait-ce que d'une part pour la reconnaissance des droits et d'autre part pour la titularité, pour déterminer qui est propriétaire de l'objet de la création. Alors moi, pour vous démontrer, hein, pour essayer de faire un état des lieux, je vais essayer de suivre en fait en trois parties le processus typique de recherche. Je m'intéresserai tout d'abord à la question du statut de la donnée individuelle, hein, qui est collectée ou qui peut être produite par les participants ou des amateurs. Ensuite, j'envisagerai la question de savoir, parce que ces données, elles ont vocation à être compilées dans une base de données, à être agrégées, donc la question se posera après de la protection de cette base de données également. Et puis enfin, j'envisagerai rapidement, brièvement, la protection par le droit d'auteur des publications scientifiques qui peuvent prendre des formes diverses. Alors, dans un premier temps, en ce qui concerne en premier lieu donc la protection des données ut singuli, c'est-à-dire individuellement, hein, une donnée, souvent, en fait, ce qu'on observe, ce qui est assez étonnant, c'est que on distingue souvent les données, on oppose les données et les œuvres de l'esprit, hein, comme si une donnée ne pouvait pas être une œuvre de l'esprit. En réalité, en matière de recherche scientifique, on utilise dans les matériaux aussi bien des données brutes primaires telles que des informations, des sons et autres, des comportements des oiseaux ou n'importe quel type de données, et également des manuscrits, des traductions qui pourraient tout à fait être l'objet d'un droit d'auteur. Donc l'idée, hein, c'est qu'une donnée qui est collectée ou qui est produite par un participant dans le cadre d'un projet de science participe peut tout à fait faire l'objet d'un droit d'auteur, à condition donc de réunir les conditions classiques que sont une création, d'abord, de forme, donc il faut que la création se coule dans une forme sensible, et originale. Et le statut des données, moi, il me semble qu'il faut tout d'abord distinguer parmi toutes ces données, hein, qui sont produites, qui sont collectées dans le cadre d'un projet de science participative, il faut distinguer ce qui relève des simples informations et des créations, premièrement. Donc, Souvent, on dit voilà, que les données les données scientifiques ne sont pas protégées par le droit d'auteur parce qu'elles ne se couleraient pas, il n'y aurait pas de forme, ce ne serait pas des créations de forme. Je rappelle quand même qu'une information, en soi, c'est une forme, et qu'une donnée, ce n'est qu'une information codée, donc mise en forme dans un certain langage, un langage humain, ou voire un langage informatique, si jamais on veut lui faire produire des utilités dans le cadre d'un système informatique, ce qui est le plus souvent le cas aujourd'hui. Donc, ce n'est pas sur ce point-là, à la rigueur, je pense que se joue l'enjeu de la distinction entre information et création. C'est tout simplement sur la question de savoir ces données sont produites dans le cadre d'un acte de création. Et ça, c'est, au regard de la jurisprudence, un critère fondamental pour déterminer si vous avez du droit d'auteur ou pas sur votre donnée. Alors, je rappelle rapidement l'acte de créer, c'est un acte qui est consubstantiel à l'être humain, et donc une création, une donnée ne peut être constitutive d'une création que si elle s'inscrit dans le cadre d'un processus de création humaine qui a pour effet d'entraîner une modification du réel, c'est-à-dire en fait d'ajouter, de produire quelque chose. Et si on met en œuvre ce critère, on se rend compte qu'en fait on a dans tout un tas de dispositifs de sciences participatives, on a tout un premier ensemble de données qui ne sont pas créées au sens du droit d'auteur, qui ne font pas l'objet d'un acte de création. On peut prendre l'exemple, par exemple, de l'activité de passive sensing. Alors, je n'ai pas trouvé de traduction en français, mais notamment toutes les données qui sont collectées par les participants avec leur smartphone, avec des applications, avec des dispositifs personnels qu'ils installent chez eux, la mesure du bruit, la mesure, par exemple, de la pollution atmosphérique, voire pourquoi pas même des spécimens collectés de papillons, de moustiques. J'avais vu qu'il y avait un projet allemand là-dessus, sur la collecte de spécimens de moustiques. Toutes ces données qui sont collectées, elles ne s'inscrivent pas dans un acte de création. Donc pour celle-ci, si vous voulez, moi il me semble assez évident que cet acte-là ne donne pas lieu ici à un droit d'auteur, en tout cas sur ce type de données. Donc toutes ces données, on peut bien les qualifier de brutes, de primaires, et elles ne donnent pas lieu à droit d'auteur. En revanche, il y a quand même un autre ensemble de données qui, moi, me semble être tout à fait constitutif de création. C'est notamment dans beaucoup de projets, alors je vais vérifier un peu sur les plateformes notamment, je remarque qu'il y a beaucoup de projets de sciences participatives qui incitent les utilisateurs, les participants, notamment c'est inscrit dans les protocoles, à fournir en plus, pour illustrer les données primaires, à fournir des photos, des illustrations, des croquis, à annoter même des fois, à faire des petits résumés. Bon. Toutes ces productions intellectuelles, toutes ces contributions actuelles peuvent bien faire l'objet ici d'une protection en droit d'auteur. Alors, en tout cas, on a bien cette première condition liée à l'activité de création. On a bien ici un acte de création de la part d'un être humain. Donc, de ce point de vue-là, sous certaines réserves, je vais assez vite, mais ici, il n'est plus question de données brutes, mais on peut bien ici parler de création. Mais encore faudrait-il, pour qu'elle soit protégée par le droit d'auteur, qu'elle soit considérée comme étant originale, qui est une condition assez classique. Donc ensuite, justement, pour toutes ces données créatives, photographies, vidéos, pourquoi pas même une discussion enregistrée ou un dessin, un croquis, il faut démontrer donc l'originalité. Alors, très rapidement, l'originalité en droit d'auteur, c'est l'empreinte de la personnalité, c'est lorsque le créateur a déposé un peu de lui-même dans son œuvre. Et ça suppose de caractériser des choix libres et créatifs. C'est vraiment la liberté de choix, l'absence d'arbitraire qui va caractériser l'originalité. C'est le critère retenu par la Cour de justice de l'Union européenne et également en droit français. Et l'heure tourne, les minutes tournent, donc je vais essayer quand même d'accélérer un petit peu. Alors, ce qu'on observe, c'est que y a rien qui s'oppose ici à caractériser l'originalité dans toutes ces données. Au stade, ça peut paraître surprenant, mais toutes ces données au stade de la production dans le cadre d'une activité de recherche participative. En revanche, il faut faire toutefois attention parce qu'il y a quand même toujours la présence d'un protocole à suivre. Et selon que le protocole est plus ou moins rigoureux, il me semble que, selon les cas, un participant ne pourrait pas revendiquer la qualité d'auteur sur une de ces données qu'il aurait produites s'il a créé sous la contrainte, c'est-à-dire en suivant un protocole très rigoureux qui contiendrait des instructions et qui serait caractéristique d'une logique qui s'oppose ici à toute marge de à toute liberté lors de la création. Donc il faut en fait raisonner au cas par cas, voilà, il y a certaines données qui sont des créations qui pourront être protégées, être originales, d'autres non. Donc voilà ce que je peux vous dire sur le statut des données à titre individuel. Alors je vais également dans un second temps envisager cette fois-ci la possibilité, et on avance un petit peu dans le stade du processus de recherche, Cette fois-ci, quand les données sont compilées dans une base, parce qu'elles ont quand même vocation à être, faire partie d'un même ensemble informationnel, cet ensemble peut également faire l'objet d'une protection par un droit particulier qu'on appelle le droit du producteur de la base de données, qui là, en réalité, on discute beaucoup sur la question de savoir ce que c'est que ce droit, ce droit du producteur. C'est un droit qui va ici protéger en réalité moins la création qu'un investissement. C'est celui qui a investi, le producteur, qui a investi, qui a fait des investissements substantiels dans la constitution, la vérification et la présentation d'une base de données. Il va pouvoir s'opposer grâce à ce droit à une extraction, voire à une réutilisation de la base de données par des tiers. Bon. Et donc, on peut se poser la question ici de savoir si les bases de données, si ce contenu, toutes ces données agrégées dans une base de données dans le cadre d'un dispositif de science participative peut donner lieu à ce droit sui generis. Alors, je ne reviendrai pas dans le détail des conditions, mais moi, il me semble qu'effectivement, en réalité, quand on agrège tous ces petits investissements, ces micro-investissements faits par chaque participant au stade de la collecte, au stade de la, également quand on ajoute le travail de vérification qui est important, parce qu'on l'a évoqué tout à l'heure, pour assurer l'homogénéité du processus de collecte ainsi que la fiabilité des données, les chercheurs, l'équipe de recherche, investit quand même du temps de travail, des outils, en vue justement d'assurer l'homogénéité, ne serait-ce par exemple dans la rédaction d'un protocole. Ce travail de vérification sera pris en compte, l'investissement sera pris en compte pour déterminer si oui ou non cette base de données mérite d'être protégée. Et puis enfin, je ne saurais insister également sur l'importance de l'investissement dans la présentation de la base, parce qu'on est souvent quand même sur des dispositifs de recherche qui visent à, enfin les productions visent quand même à s'adresser à un public, la plupart du temps, pas toujours bien entendu, mais un public d'amateurs ou de non-professionnels. Donc la question de l'accessibilité à la base de données peut avoir une importance considérable et peut requérir des investissements assez importants. Donc de ce point de vue-là, tous ces investissements pourront être pris en compte et à supposer qu'ils soient bien substantiels. Alors là, tout est question d'affaires. Alors, la jurisprudence n'est pas très précise sur la question. Je pense qu'il faut comparer en fait à projet similaire. Il faudra comparer un peu, voir si les investissements sont suffisamment importants pour mériter cette protection. Mais rien ne s'y oppose en tout cas. Voilà pour ce que je voulais dire. Alors après, j'aurai plein de choses à dire sur la protection de la base de données. Je finirai seulement, parce qu'il me reste 1 minute et 5 secondes, voilà, sur la protection maintenant, dans un troisième temps, des résultats. Parce que quand même, on est dans le thème publié. Donc publié, ça implique aussi quand même les données ont été analysées, traitées, elles figurent dans cette base de données, et on peut maintenant infirmer, confirmer nos hypothèses de départ et se créer effectivement tout un tas de publications. Alors ces publications scientifiques, on l'a vu, elles prennent d'abord des formes diverses. Il y a des publications académiques classiques. Alors ces publications académiques traditionnelles, des écrits, des ouvrages, elles sont protégeables en droit d'auteur. Ce qu'on protège en fait, c'est pas, attention, mais ça c'est classique, mais c'est pas la nouveauté de la théorie, le développement, la découverte de nouvelles galaxies avec le projet Zoogalaxy, c'est pas ça qu'on protège. Ce qu'on protège, c'est la façon dont le sujet est traité, c'est-à-dire l'écrit, est-ce que cet écrit est original, est-ce que le chercheur, le scientifique a déposé son empreinte lorsqu'il a écrit son article. Voilà. Donc vous êtes des créateurs en fait, quand vous écrivez, enfin moi aussi d'ailleurs demain parce que j'écris un peu, mais voilà, les chercheurs sont, au regard du droit d'auteur, sont des auteurs. Voilà. Parce qu'ils créent ils réalisent des créations de formes originales, donc notamment l'écrit scientifique. Et même les formes plus atypiques de production scientifique, et notamment les... on l'a vu, alors j'ai des exemples de bandes dessinées, c'était très intéressant, des croquis, des films d'animation, des BD, voilà. Bon. Toutes ces formes-là également donneront lieu à la protection du droit d'auteur. Il y a un grand principe en droit d'auteur, c'est l'indifférence du genre, c'est-à-dire qu'on ne prend pas en compte, pour le bénéfice de la protection, on ne prend pas en compte le genre de l'œuvre. Donc, a priori, il n'y a pas de discrimination selon le genre de l'œuvre, que ce soit une bande dessinée, un film, une vidéo, c'est protégeable en droit d'auteur dès lors que c'est original. Il faut seulement faire attention, parce que je finirai là-dessus, qu'il y a certaines productions, et je voudrais même pas parler de production, c'est qu'il y a des fois certains résultats qui ne se concrétisent pas dans une production intellectuelle. Des fois, j'ai vu ça dans certains rapports, on a des fois des projets qui débouchent sur des méthodes, une nouvelle vision, le partage des visions, la constitution de groupes de confiance, le changement de posture des acteurs. Alors là, on n'est pas dans le domaine d'une production, d'une création. On est dans le domaine des idées, et ce type de résultat, par contre, attention, ne pourra pas être protégé en droit d'auteur. En revanche, si vous écrivez un guide, un livre blanc sur la nouvelle vision, la constitution d'un groupe de confiance, ou, je prends un exemple, le changement de posture des acteurs, et que ça fait l'objet d'un livrable, ce livrable, effectivement, enfin, la forme qui en résulte, sera protégeable en droit d'auteur. Voilà, j'aurais plein d'autres choses à vous dire, notamment sur les questions de signature, de co-signature. Si vous aviez des questions, je peux toujours essayer de répondre tout à l'heure lors de la table ronde. Et alors, j'ai un peu dépassé, excuse-moi Florence, et je vous remercie.
Donc, on va se retrouver pour le temps de questions.
Merci. J'ai une question pour Thibaut, tant que ça reste un peu frais. C'est une question sur la protection des droits d'auteur sur les données. J'ai du mal à voir ce que peut être la création de forme sur une donnée collectée. Parce que dans les exemples que tu as donnés, pour moi, c'était plus des métadonnées contextuelles, mais pas véritablement une œuvre de l'esprit qui sera portée à cette donnée. Donc, est-ce que tu aurais des exemples de collecte de données qui induisent forcément une...
Tu fais entre la donnée qui est collectée et les métadonnées, effectivement, j'aurais pu le présenter comme ça. C'est que lors de tout ce qui est photos, annotations et autres, ce sont plutôt des métadonnées qui permettent de comprendre d'analyser et de mettre en contexte la donnée. La donnée en elle-même, c'est ce que j'ai voulu montrer en fait. Hein, oui, effectivement, elle s'inscrit dans le cadre d'une activité de collecte, la mesure de décibels ou autre. Ça donne pas lieu au droit d'auteur. On n'a même pas de création. Il n'y a même pas à se poser la question de savoir s'il y a une originalité ou non. Il n'y a pas de création. Donc toutes les données qui sont collectées, qui sont des données brutes et primaires, effectivement, elles donnent pas lieu au droit d'auteur. Celle qui donne lieu au droit d'auteur, c'est ce que tu ajoutes donc dans tes métadonnées, c'est-à-dire des illustrations ou autres. Ça pourrait donner lieu à droit d'auteur, même si c'est une création modeste, puisqu'on ne fait pas, nous, la distinction. Enfin, le droit d'auteur ne protège effectivement également des créations modestes. On a des exemples en jurisprudence, si vous voulez, de paniers de salade. Donc, voilà, une photographie peut être protégée à condition qu'elle soit originale. En revanche, ces données collectées, là, s'il y a un investissement dedans, dans la collecte de ces données, et qu'elles viennent abonder une base de données, là, par contre, elles pourront être protégées parce qu'elles font partie d'un ensemble qui est le contenu d'une base de données. Et elles pourront être protégées par le droit du producteur, ce que j'ai envisagé dans le second temps de ma présentation. Mais individuellement, une donnée collectée, un spécimen, si vous capturez un moustique, il n'y a pas de création. C'est du vivant. Et il y aurait un risque, effectivement, de modifier, donc il faut éviter. On est bien d'accord.
Bonjour, merci. Moi, j'ai une question pour... tous les trois, je pense, justement sur... ça m'a interpellée surtout à partir de la première présentation, mais au niveau juridique, je pense qu'il y a des impacts aussi. C'est que le fait de publier engendre qui ne relève pas du droit d'auteur, mais des informations finalement autres, sur le statut des personnes qui publient. Donc en fait, c'était par rapport au fait que ça donnait des indications sur l'état de santé ou sur le fait de travailler pour telle entreprise ou d'être engagé dans tel projet. Et en fait, la publication fait une trace de ça. Donc comment est-ce que ça se gère et comment est-ce que c'est pris en charge? Parce que ça ne me semble pas le relever du droit d'auteur du tout. Donc comment est-ce que... comment ça se gère? Voilà.
Parce que j'allais dire sur tout ce qui est... je ne pourrais pas répondre. Non, voilà. Nous, en plus, on n'a pas vraiment regardé ça. On était surtout sur assumer, en fait, de divulguer potentiellement cette information. Donc, clairement, on n'aurait pas décidé pour les personnes. Mais en fait, quand on l'a proposé, ça vient sur la table et on laisse largement le temps de la réflexion, de changer d'avis. Enfin, là, pour le coup, on essaie de dire... c'est vraiment comme vous voulez, on ne veut pas imposer en fait une manière de faire, même dans un même groupe. C'est-à-dire, si une personne ne veut pas donner son nom, on ne va pas empêcher les mêmes personnes de notre groupe, si elles ont envie, pour X ou Y raison de le mettre, de ne pas le mettre. Donc on peut essayer après de dire, OK, comment est-ce qu'on pourrait faire? On n'a pas été face à cette situation-là, donc je n'ai pas là de qu'est-ce qu'on aurait pu proposer à la place. Mais je pense que c'est vraiment en fait de partir de pourquoi vous êtes là, quels sont aussi vos besoins, est-ce que vous voulez même ne pas du tout y apparaître, on reste très ouvert en fait sur ces parties-là, quoi. Est-ce que vous voulez quitter, partir, ça arrive, hein. Donc non, c'est vraiment plus de pouvoir en fait avoir des espaces de discussion pour pouvoir dire ce qu'on veut pas, quand on est d'accord, pas d'accord, et oser surtout le faire. C'est ça, le plus difficile.
C'est vrai que pour rebondir, en fait, j'ai trouvé, moi, ça m'illustrait justement la question de la co-signature, parce que c'est une question, notamment c'est Raphaël qui m'en avait parlé la première fois, je me souviens, et donc je m'étais posé la question, mais je trouvais assez peu d'exemples, notamment en droit, parce qu'en droit, on publie souvent en solitaire. C'est vrai que ça se fait souvent, bon. Ce qui n'est pas le cas. Et alors là, ce qui est assez étonnant, c'est que j'avais plein d'exemples, en fait, et dans la question, donc je vais y revenir, parce que dans la question, il y a deux questions. Il y a la question d'abord du droit d'auteur, puis il y a celle des données personnelles. Si des chercheurs décident de divulguer, enfin de publier, de divulguer les noms, ou même, voire même le nom d'un consortium, sans obtenir l'autorisation des personnes concernées, qui sont ici donc ceux qui ont participé, en fait, qui sont les sujets également donc les personnes atteintes qui ont été atteintes de cancer ou autre, là il y aurait un problème au niveau des données personnelles, parce que et même si c'est juste un consortium, parce que ce serait bien, on aurait bien ici une divulgation de données personnelles, dans la mesure où on peut tout à fait retracer, en sachant que la personne a fait partie du consortium à telle date, donc on arrive, c'est une donnée qui est identifiable indirectement, donc c'est une donnée personnelle, donc d'où la bonne pratique effectivement, qui est de dire en fait à vous de choisir. Enfin voilà, j'ai pas réfléchi encore particulièrement à cette question, mais après sur le plan du droit d'auteur, le fait de signer n'est pas dénué d'effet juridique quand même, parce que à la signature est attachée en fait une présomption que c'est vous l'auteur. Voilà. Quand vous divulguez une œuvre sous votre nom, on présume, vous n'avez pas à prouver que c'est vous l'auteur, ce qui peut avoir un intérêt notamment dans le cadre d'un contentieux. Bon, on a vu qu'il pouvait y avoir des conflits dans certains, je sais pas, après des conflits de problèmes d'orientation politique, ça peut pourquoi pas même déboucher. Enfin, nous en fait en tant que juriste, on est toujours en train d'anticiper les problèmes, donc on essaie quand même. D'où la question. Mais et ici, il y a deux points. C'est le premier, c'est que cette présomption, je ne sais pas dans quelle mesure elle peut jouer lorsque c'est juste un groupe ou un consortium. Si la personne n'est pas identifiée nommément, je me demande si cette signature, elle peut entraîner la présomption. Et le deuxième point, c'est qu'on prend souvent en compte sur ce point-là ce qu'on appelle les usages, qui sont des pratiques dans le cadre d'un secteur donné. Et je me demande même si à l'avenir, la jurisprudence ne sera pas amenée à prendre en compte les usages pour dire, bah si, en fait, en matière de sciences participatives, ça se fait quand même. On ne va pas mettre 50 noms parce que c'est pas gérable. Donc on va admettre ici qu'effectivement, le fait de signer par un consortium, ça permet d'établir la présomption de titularité du droit de toutes les personnes membres du consortium à cette date. Pourquoi pas ? Voilà. Après, ça, c'est une affaire d'espèce, c'est assez nouveau. Moi, je n'ai pas de jurisprudence sur la question sous la main, mais ça pourrait être une piste de réflexion. Je ne sais pas si j'ai... Mais en fait, la question des données personnelles, c'est le sujet d'une intervention en soi, et je pourrais vous en parler bien longuement. Mais...
Bon, oui, bonjour, merci beaucoup pour ces présentations. Je crois que mes questions sont aussi orientées plus côté vraiment juridique. Mes questions, pardon, j'en ai deux, mais elles sont peut-être petites. La première, c'est la question des licences, en fait. Est-ce que c'est un protocole de définir une licence qui permettrait potentiellement une licence libre où on abandonne potentiellement son droit d'auteur au profit du projet ou au profit des scientifiques. Et puis la deuxième, c'est, vous avez parlé par exemple de l'enregistrement, et en effet, on ne fait que reproduire quelque chose, et en même temps, il y a cette question de l'intentionnalité, c'est-à-dire que, plus ou moins passive, c'est-à-dire que peut-être que notre montre, elle enregistre en permanence notre action, etc., mais si on décide de mettre en place un enregistrement à un certain temps donné et de l'arrêter, est-ce que ça vaut l'intentionnalité vaut-elle comme je sais pas quel mot, oui, création, oui, on va utiliser le mot création.
Ce sont deux excellentes questions, parce que c'est des choses que j'avais envie d'envisager. Alors je vais commencer par la deuxième, peut-être, sur la question justement de l'intention de créer, qui est effectivement une condition. Pour créer, il faut avoir effectivement l'intention de créer. Voilà. Alors, dans le cas d'une montre connectée ou qui collecterait des données, dans tous les cas, il n'y a pas vraiment de création. Donc, la question de l'intention ne se pose pas. En revanche, la question peut se poser, imaginons ce qui peut se faire dans le cadre de dispositifs de sciences participatives, dans le cadre d'observation écologique de la faune et de la flore. Quand vous mettez, par exemple, vous placez des capteurs, des enregistrements vidéo sur une très longue période, la nuit, le jour, sur une semaine, est-ce que là, il y a une intention de créer ? Imaginons que cette vidéo soit réutilisée après pour produire un film documentaire, donc une production scientifique ou à destination en tout cas d'amateurs. La question pourrait se poser de savoir si en fait l'auteur a véritablement eu l'intention. Effectivement, il a posé un appareil, il a suivi un protocole. Techniquement, l'intention ne me pose pas de problème ici. Je pense qu'il y a bien un acte de créer. En revanche, ce qui me posera problème ici, c'est l'originalité. Je ne vois pas en quoi, en fait, on peut trouver une originalité, une individualité du participant qui aurait enregistré sur une semaine les faits et gestes d'un loup, par exemple. Je ne sais pas trop. C'est toutes les affaires d'espèces. Mais c'est le critère pris en compte par la Cour de justice, effectivement, par la jurisprudence. Il y a le cadrage et il y a effectivement les retouches. Par contre, s'il y a des retouches derrière de cette vidéo en vue de la publier dans le cadre d'un film d'animation, alors là, effectivement, ça donnera lieu à... On aura une œuvre dérivée. Le choix du lieu, la lumière, tout ça. Mais c'est vrai que, comme ce sont souvent des enregistrements qui sont dictés par des contraintes techniques ou par des logiques écologiques ou liées au comportement de l'animal ou liées aux contraintes du sujet, en tout cas, je pense que dans la prise en elle-même, je ne pense pas qu'il y ait ici d'originalité. En revanche, je pense qu'elle se trouve effectivement dans le cadre d'un travail de retouche. Et ça, la jurisprudence l'admet tout à fait pour ce qui concerne les photographies, et ça marcherait, je pense, également pour la vidéo. Et j'ai oublié votre première question qui était passionnante. C'était sur les licences. Alors, j'essaierai de faire vite parce que je n'aimerais pas non plus monopoliser la parole. Je suis vraiment désolé. Quand je commence, je m'arrête jamais. Sur la question de la licence, alors, allez, c'est une excellente question parce que le fait de dire les participants, les amateurs sont des auteurs des données qui peuvent produire des croquis, des images et autres, ça va avoir une incidence en pratique sur comment font les chercheurs lorsqu'ils veulent exploiter ces images, ces photos dans le cadre de leur publication scientifique ou dans le cadre d'une base de données. Il faut qu'ils obtiennent une autorisation de l'amateur, du participant qui est l'auteur de cette donnée. Et un moyen d'obtenir ces autorisations, parce que c'est quand même compliqué ces autorisations, hein. Il y a un formalisme à respecter, faut qu'il y ait l'étendue géographique, voilà, faut qu'il y ait la durée des droits et autres. Alors un moyen serait de mettre en place une licence. Je pense notamment à mettre en place une licence au moment où vous utilisez une plateforme, au moment où vous téléchargez un dispositif de collecte. Et il faudrait enregistrer à ce moment-là, il faudrait que l'équipe de recherche enregistre les autorisations, les garde bien. Il faut que ces autorisations respectent bien le formalisme du code de la propriété intellectuelle également pour qu'elles soient valables, ce qui n'est pas gagné. Et à cette condition-là, je pense que ça pourrait valoir licence. En fait, on ne parle pas de licence, on parle carrément de cession de droit. La licence, c'est plutôt un terme qu'on utilise en matière de logiciel. Mais oui, donc c'est effectivement à anticiper lorsque vous sentez qu'il y a des cas où, dans votre projet, les participants, les amateurs, les citoyens peuvent produire et créer. Dans ce cas-là, moi, j'anticiperai à votre place et je mettrai systématiquement en place des systèmes de cession de droit. Voilà.
Je vais garder le micro 2 secondes parce que j'ai une question, en fait, aussi. Plutôt pour Charlotte et Aurélie, sur la question de l'évaluation. Parce que, aussi bien, Charlotte, tu as dit, parfois, on peut publier avec 6 auteurs, 10, 50. Ce n'est pas le cas de toutes les disciplines. Aurélie, tu as montré plein de publications dans lesquelles tu as dit tiens là, il n'y a même pas mon nom comme directrice d'édition, par exemple. Et du coup, je me pose la question quand même de comment on valorise, on fait reconnaître au sein de l'institution tous ces types de documents, de publications qui sont quand même le résultat d'un travail de recherche et qui ne vont peut-être pas rentrer dans, quand il y a les visites HCERS, dans tout ce qu'on produit, ou est-ce que ça part du coup du côté des expertises, comment est-ce que c'est évalué et reconnu, quoi.
Je trouve que ça a beaucoup évolué. Quand je commence le premier sur Rodin, là, rien. C'est vraiment une envie de faire de la recherche différemment. C'est absolument pas valorisé. Alors, ça l'était un peu parce que comme on était sur un programme européen, c'était un peu... ça paraissait quasiment pas dans mon CV. Je trouve que ça change quand même. Là, j'ai eu des rapports RIPEC à analyser ou des choses sur les primes. On voit bien que ça a beaucoup changé là-dessus, je trouve.
Oui, alors il y a ça, et moi c'est vrai que si j'ai parlé, alors moi je viens plutôt de santé, donc en santé on publie à beaucoup d'auteurs, parce que c'est interdisciplinaire, et parce que dès qu'on nous ouvre les portes d'un lieu, la contrepartie souvent c'est de demander d'être associé à ces papiers, donc c'est un peu des politiques qu'on voit beaucoup, donc c'est pour ça qu'on fait assez facilement de rajouter ces patientes-là. Après je prenais cet exemple-là parce que récemment, je me dis que quand les revues nous demandent quand même de justifier qui a fait quoi, donc c'est aussi pour essayer peut-être de, entre guillemets, faire du tri, qu'on ait une réflexion nous-mêmes quand on écrit le papier, qu'on met les auteurs, de peut-être qu'on peut renégocier entre nous, d'être plus juste, entre guillemets, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais sur vraiment des réelles participations et qu'est-ce qu'on veut valoriser ou pas dans la mise en œuvre des projets. Et aussi récemment, en fait, j'ai publié la revue, c'est Sciences sociales et médecine, je crois, où en gros, à un moment, je mets le nombre de mes auteurs et ils me disent, est-ce que vous avez plus de 6 auteurs ? Oui. Bon, alors dites-nous, justifiez pourquoi il y a plus que 6 auteurs. Parce que nous, en gros, la limite qu'on voudrait, c'est ça. Donc là, ça m'est arrivé de manière très stricte, mais ce n'est pas tout le temps comme ça, mais je me dis que ça pourrait aussi se multiplier et du coup entraîner d'autres manières, d'autres pratiques, en fait. C'est plus ça.
Merci. J'avais une question. En fait, je crois que c'est Charlotte qui l'a évoqué, mais c'est plus sur la motivation des partenaires à être auteur ou pas. Vous avez évoqué le fait de ne pas vouloir être associé pour des raisons que je comprends parfaitement, mais dans un cas ou dans l'autre, qu'est-ce qui peut motiver les participants à ce genre de travaux à investir du temps dans l'écriture et à être reconnu pour ça ?
Dans le cas du programme sur les incivilités numériques, je ne l'ai pas spécifié, mais c'était quasiment que des préventeurs en entreprise, donc médecins du travail, psychologues du travail, DRH, éventuellement DIRCOM, et c'est des gens qui avaient identifié que c'était un problème dans leurs organisations, qui cherchaient à trouver des solutions alors que ce n'était pas traité par ailleurs. Donc leur envie, elle était de débattre sur ces questions qui n'étaient pas traitées dans leur entreprise, mais dans un espace de recherche à l'extérieur. D'ailleurs, ça revient sur la question de tout à l'heure. Nous, on a eu un vrai débat sur on signe avec le nom de son entreprise ou pas. C'est-à-dire que les entreprises ont laissé du temps pour passer du temps là-dessus, mais est-ce que pour autant, on a envie d'afficher le nom de son entreprise et puis quand ça dure 3 ans, on change d'entreprise ? Enfin, il y a eu de vraies questions là-dessus. Mais donc, pourquoi est-ce qu'ils voulaient participer ? Parce qu'ils voulaient échanger sur ces questions. Donc là, c'est vraiment l'objet qu'ils avaient envie de construire pour leur pratique professionnelle. Après, ils étaient très intéressés dans leur... dans ce type de groupe, on a tous des objectifs différents. Le chercheur a ses objectifs, les autres ont leurs objectifs. C'était très intéressant pour eux co-signer un livre blanc. La question de co-signer un article de recherche, c'est, peut-être j'aurais dû leur poser, mais jamais ils m'ont dit ça, on aimerait signer avec toi. C'est-à-dire que de toute façon, ils savent que ça ne sera pas lu, ce n'est pas quelque chose qui les intéressait a priori. Mais je pense qu'on a vraiment des différences aussi de discipline et de pratique.
Oui, et pour moi, je pense que je vais reparler plutôt d'Impact parce que c'est le projet dans lequel je suis, mais je ne pourrais pas trop parler des autres. Mais c'est l'entrée aussi, c'est-à-dire que, en gros, là, vous dites que c'est un besoin de terrain et on veut, en gros, l'améliorer, participer à ça, alors que nous, l'entrée, c'est participer à la recherche. C'est vous, est-ce que ça vous intéresserait de participer à des recherches, en fait ? Et du coup, ça englobe beaucoup plus toutes les phases, en fait, qu'elles sont très intéressées, elles ont envie de découvrir. Et ce n'est pas forcément je veux participer parce que j'ai une valorisation personnelle ou professionnelle. Et c'est là où, pour moi, elles pourraient dire non, dire là, je ne suis pas légitime, même si ça m'intéresse. Voilà. Mais c'est, en fait, nous, elles sont là parce qu'elles veulent faire de la recherche, en fait, en cancérologie, mais ça pourrait être sur n'importe quel terrain. Enfin, il y en a qui travaillent sur des sujets, donc nous, c'est les troubles cognitifs qu'elles n'ont pas vécu. Parce qu'à un moment, il a fallu se décider décider d'un thème, et même si c'est remonté de certaines d'entre elles, ça ne veut pas dire que c'était partagé par toutes. Mais, et du coup, elles ont davantage cette volonté de comprendre comment on fonctionne et d'y mettre les mains, quoi. Donc c'est aussi, je pense, cette différence-là.
Un petit peu de retard, je sais pas s'il y aura d'autres questions dans la salle, sinon on
passe. Merci à vous pour la table ronde et merci aux modératrices.